Actes chapitre 10. Le titre que j'ai donné à cette scène de prière, parce que bon, vous savez qu'à chaque fois, l'intérêt c'est de tirer une leçon de ces scènes de prière. Le titre que j'ai donné à cette scène de prière, c'est se laisser surprendre par la volonté de Dieu. Se laisser surprendre par la volonté de Dieu. Alors, la lecture va être un peu longue, même si on ne lira pas tout. Et commençons par le verset premier, qui nous place dans le contexte. Actes chapitre 10, verset 1er, il y avait à Césarée, c'est une ville, hein, un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte italienne. C'était un homme militaire, un chef militaire. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure, c'est-à-dire à peu près vers 3 heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu » et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, qui lui est corailleur, dans la maison, près de la mer. Dès que l'ange lui avait parlé, fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit. C'était des toitures terrasses, donc accessibles. Et vers la 6e heure, pour prier, là il est à peu près midi, et Pierre lui décide d'aller prier. Il eut faim, et il voulut manger. Et pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la deuxième fois, la voix se fit encore entendre à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Et cela arriva jusqu'à trois fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant mis en quête de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit « Voici, trois hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre donc descendit et il dit à ses hommes « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène ?» Ils répondirent « Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux, quelques-uns des frères de Joppé, l'accompagnèrent. On va sauter l'étape. À partir de là, donc, ils font le trajet, ils rencontrent Corneille. Corneille raconte l'histoire qui lui est arrivée avec l'ange qui lui parlait. Et Pierre commence à lui parler. On va pas tout lire, mais là, lisons quand même les versets 34 et 35. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Et il continue de parler de la bonne nouvelle de l'évangile, de la venue de Jésus qui est mort, qui est ressuscité. Et on arrive au verset 44. Et pendant, comme Pierre prononçait encore ces mots, il est encore en train de prêcher, d'annoncer la bonne nouvelle de l'évangile, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit ait été aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, comment peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Amen. Corneille, un homme d'origine païenne, non pas quelqu'un qui a grandi comme juif avec la religion juive, au contraire, lui, il vient d'un milieu païen, c'est-à-dire qu'il croit en des divinités de manière générale, mais c'est un homme dont il est dit, il est qualifié de craignant Dieu. Et c'était une manière à l'époque de qualifier les gens qui, justement, s'étaient convertis au judaïsme et qui pratiquaient le judaïsme. Ils avaient abandonné toutes les idoles païennes et c'était des hommes qui s'étaient attachés à pratiquer la religion juive. Et ce n'est pas seulement un changement de religion qui importe, mais on voit que c'est véritablement quelqu'un qui a une démarche spirituelle. Il cherche véritablement Dieu en acte, par les aumônes, par cette libéralité, par cet amour qu'il a à l'égard des autres, parce que Dieu nous apprend à aimer notre prochain et à ne pas seulement les aimer en parole, mais en action. Et dans une véritable relation également spirituelle, parce qu'il nous est dit que cet homme priait continuellement. Il cherchait continuellement la face de Dieu. Et ça, c'est beau de retenir ça et de le comprendre pour nous. Dieu écoute les prières vraies. Dieu ne se contente pas seulement des mots, des bouches, des formulations, mais ce que Dieu voit et ce que Dieu écoute et ce que Dieu retient, ce sont les prières sincères, vraies. Quelle que soit l'identité religieuse, les croyances, nos origines, notre état de compréhension des choses spirituelles, Dieu a les regards fixés sur les hommes et les femmes qui ont une vraie foi, une vraie recherche, une vraie aspiration, un vrai désir de se rapprocher du vrai Dieu. Et c'est ça que Dieu cherche sur cette terre. On peut avoir des religions, on peut même être évangélique et avoir un cœur complètement froid à ce niveau-là. Et on peut être très loin de la vérité, croire en d'autres dieux, mais avoir une aspiration à rencontrer le vrai Dieu. Et c'est ces gens-là que Dieu honore et qu'il cherche. Il nous est dit, c'est pour ça que j'ai voulu relire et lire le verset 34, « Dieu agit sans favoritisme. » Mais quand il voit quelqu'un qui est sincère, qui est vrai, qui le craint, qui pratique la justice, c'est-à-dire quelqu'un qui veut vivre en harmonie avec ce désir de se rapprocher de Dieu, alors Dieu ne fait pas de favoritisme, il ne regarde pas l'étiquette, il ne regarde pas la façon de faire, il ne regarde pas à nos origines, à nos conceptions humaines qui sont plus ou moins justes, mais il regarde à notre état de cœur et à notre recherche spirituelle. Et après, Dieu, effectivement, fera toujours en sorte que ces hommes et ces femmes sincères, vrais, soient amenés à une relation intime avec Dieu. Au verset 3, il nous est dit que cet homme qui avait l'habitude de prier, qui priait Dieu continuellement, donc c'est une mentalité, voilà que c'est vers 3 heures de l'après-midi qu'il voit un ange lui parler. C'est incroyable ça. Il voit un ange, il prie, oh, un ange qui rentre chez lui. Il réexplique, on n'a pas lu, hein, mais c'est au verset 30, il explique justement à Pierre son étonnement. J'étais en train de prier, et puis un ange est venu, et puis il m'a dit ça. Si je vous lisais le chapitre 11, verset 13-14, l'histoire est racontée, je cite, « L'ange se présenta à lui en disant, « Envoie à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Là, il y a quand même le sens. C'est que l'ange est apparu à cet homme en train de prier, et l'ange lui dit, « Va envoyer quelqu'un, parce que ce quelqu'un-là, il va te raconter ce que tu as besoin d'entendre pour être sauvé. » Et l'ange repart. On va revenir sur ce point-là tout à l'heure. Ce que je voudrais dire là et retenir, c'est que Corneille, qui est un homme de foi, un homme de prière, un homme de conviction, un homme sincère, un homme impliqué, c'est pas un débutant, c'est un homme qui a déjà son assise sociale, spirituelle. Il a déjà sa réputation d'établie. Il n'est pas dans une sorte de désir de se faire reconnaître, pas du tout. Il ne recherche pas le spectaculaire, il ne recherche pas à être vu, il ne cherche pas... Il est déjà installé, comprenez ce que je veux dire. Il n'est pas du tout dans une recherche d'excitation ou d'émotion. Il ne recherche rien. Mais l'ange lui apparaît quand même. Il n'est pas là dans une recherche de quelque chose de nouveau, mais c'est malgré tout dans un temps de prière normal, ordinaire, qu'il va avoir la visitation d'un ange. Permettez-moi de vous dire que Dieu aime se révéler. Dieu aime se montrer. Peut-être pas dans les moments que nous on voudrait. Nous, de temps en temps, on se conditionne pour. « Oh Seigneur, il faut que... » Mais c'est peut-être pas forcément ce moment-là que le Seigneur va nous parler particulièrement. Par contre, si on a cette disposition de cœur général, cette mentalité à vouloir se rapprocher du Seigneur, il se pourra que Dieu se manifeste à nous de manière très particulière à un moment où on ne s'y attend pas. Encore hier, je lisais un témoignage de quelqu'un qui aime le Seigneur et qui était malade. Et il demandait au Seigneur, guéris-moi, guéris-moi. Et il a passé des années comme ça à soupirer après une guérison, une délivrance. Et il n'était pas guéri. Et un jour, il a été guéri. Un jour ordinaire, un jour qui n'avait rien de particulier, ce jour-là, délivré de son infirmité. Vous comprenez quelque chose? Il n'y a rien à comprendre. C'est que ce que Dieu veut, c'est pas qu'on cherche des événements ou des moments, c'est qu'on soit des hommes et des femmes qui soient toujours dans cette prière continue, dans cette attente. Et lorsque le Seigneur a envie d'intervenir, de se révéler, de se manifester, pouf, il ne va pas avoir besoin, lui, de circonstances enveloppées, de circonstances spéciales. Il intervient quand il le décide. Après, on a la vision. Et après la vision, on s'aperçoit que tout de suite, cet homme, Corneille, envoie des gens exécuter la vision. L'ange lui dit, ah, va chercher Pierre, il est dans une autre ville, vas-y. Et tout de suite après, Corneille prend la décision d'exécuter cette vision. Et ça, c'est important pour nous aussi. Parce qu'il se peut, et il est sûrement déjà arrivé, que le Seigneur mette des choses sur notre cœur. Mais est-ce qu'on a exécuté rapidement, promptement, ce que le Seigneur nous a demandé? C'est exactement la même chose qui se passera avec Pierre. Il a la vision. Et Dieu va lui dire, vas-y, ne tarde pas. Ces gens-là, ils sont là pour là, tu iras tout de suite. Alors, il n'a pas parti dans la foulée, ils ont pris le temps de discuter, et puis ils sont partis le lendemain, mais ils n'ont pas tardé. Et ça, c'est important aussi de réaliser que quand le Seigneur met quelque chose sur notre cœur, Nous ne devons pas tarder. Si le Seigneur met quelque chose sur notre cœur, ne remettons pas à demain, pas après-demain. Si le Seigneur nous le dit et nous prépare maintenant et qu'il nous incite à, c'est que c'est maintenant qu'il faut faire. C'est maintenant qu'il faut aller. Et puis après, pendant que les gens vont chercher Pierre, étonnamment, Pierre, lui, il fait une expérience qui est similaire, quoi. Lui aussi, c'est un homme de prière. Alors, il décide, il est à peu près midi là. Bon, allez, je vais prier. Bon, il a un petit peu faim quand même. Hein. Il est pas en jeûne et prière. Il est pas dans une recherche de trucs de particulière. Mais avant de manger, il a envie de prendre le temps de prier. C'est bien, on a droit. Hein, on est libre dans la prière et il faut cette liberté, cette spontanéité. Et voilà. Alors que il commence à avoir faim, qui oh s'il vous plaît, vous pouvez me préparer un petit plat là, j'ai faim. Hein. Dès que c'est prêt, vous me le dites, je descends. Hein. Mais pour l'instant, je prends le temps là. J'ai un petit quart d'heure pour prier. Hein. Dès que c'est prêt, vous me dites. Quand c'est chaud, je descends. Et là, il prie, Seigneur, oh merci. Oh. Et choc, il tombe en extase. Une vision particulière, quelque chose qui le transporte, qui le bouleverse. Et lui, là, il ne voit pas un ange qui lui parle, il voit une scène, il voit des animaux qui descendent. Et alors, c'est un juif. Et dans ces animaux qu'il voit, il y a des animaux qui sont classés, selon la parole de Dieu, comme impurs. Des animaux que ces juifs n'avaient pas le droit de manger. Alors, il voit là des reptiles qui descendent, des grenouilles, des trucs un peu bizarres. Hein. Et cette voix qui dit « Tue et mange. » Mais jamais de ma vie. Je sais pas, vous, s'il y a des choses qui vous répugneraient, nous, bons Français qu'on est, on mange de tout. Des asticots. Vous aimez les asticots? Des vers de terre, là, tout gluants. Et là, vous voyez ça? Et Dieu vous dit « Tue et mange. » Ah, mais non, c'est dégoûtant. Alors nous, c'est dégoûtant parce qu'on n'a pas envie de manger. Mais là, c'est encore pire pour lui. Parce que lui, c'est devant Dieu. C'est Dieu qui, toute sa vie, tout petit, on lui a toujours dit ça. Il ne faut pas manger, c'est impur. Dieu ne veut pas qu'on mange ça. C'est mécréant, c'est mauvais. Et lui, il voit ça. Il y a de quoi être déboussolé, déstabilisé. Et c'est tellement déstabilisant que Dieu est obligé d'insister 3 fois à la même vision. Mais si, c'est bien ça que tu as vu et c'est bien ça que je te dis. J'ouvre une parenthèse sur les visions et les dons de manière générale. Dieu aime se révéler. Mais ce n'est pas un signe de qualité spirituelle que d'avoir beaucoup de visions ou beaucoup de dons. Déjà, de manière générale, j'ai souvent observé que ceux qui ont beaucoup de visions, beaucoup de dons, c'est pas très net. Parce qu'on voit dans la Bible qu'effectivement, Dieu aime se manifester par des visions, des dons, etc. Mais c'est toujours à des moments particuliers et justement pour marquer le coup. Comme si la conscience n'était pas suffisante, comme si la parole n'était pas suffisante. Quelque chose qu'on a besoin de plus pour être convaincu par le Seigneur. Et faisons attention. Ce n'est pas parce que nous sommes plus ou moins spirituels que Dieu envoie des signes, des prodiges, des visions, des dons spirituels. Dieu aime juste éventuellement confirmer une chose, donner une orientation. Mais il y a bien des circonstances où Dieu peut tout simplement parler à notre cœur. Et si nous avons le cœur docile, l'esprit ouvert, alors Dieu n'aura pas forcément besoin de faire descendre 3 fois une vision pour nous forcer. Mais si notre cœur est déjà, lui, largement ouvert et disposé, alors Dieu saura parler par des choses simples. Donc, ne soyons pas non plus des hommes et des femmes qui serions peut-être dans une sorte de frustration, à se dire, mais le Seigneur, moi, il ne m'a pas parlé par des visions, moi, le Seigneur ne m'a pas parlé par des songes, moi, le Seigneur ne m'a pas parlé par des dons spirituels. Ce n'est pas une nécessité. L'essentiel, c'est que nous, notre cœur, soit toujours sensible au Saint-Esprit, obéissant. Et on peut passer toute une vie sans voir de vision, mais être bien plus obéissant que de voir des visions et ne pas y obéir. Donc, ce n'est pas non plus une obligation. Rappelons-nous quand même que le premier moyen par lequel Dieu nous parle, c'est par sa parole. Ensuite, par l'action du Saint-Esprit sur notre cœur. Et le troisième moyen que Dieu emploie, c'est effectivement par ses signes extérieurs. Mais revenons à notre histoire. Et Pierre, il voit cette vision 3 fois, cette vision qui le perturbe, qui le choque, qui ne savait pas quoi penser du sens de cette vision. C'est ce qu'il nous est dit. Il réfléchissait, il disait, mais ça veut dire quoi cette histoire? Qu'est-ce que ça veut dire? Surtout que, c'est rigolo, mais en plus il allait manger, on lui préparait à manger et Dieu lui dit, va manger des trucs impurs. Enfin, ça c'est le petit clin d'œil du Seigneur. Mais il réfléchit. permettez-moi d'insister, il réfléchit avec son cerveau. Il réfléchit avec son raisonnement. Il se pose des questions. Il se pose là. Alors, on connaît la suite glorieuse, hein. Les gens lui parlent, il répond à l'invitation, ils partent avec ses hommes, Corneille va lui expliquer, Pierre va lui annoncer le message de l'évangile, la mort de Jésus et sa résurrection. Et puis pendant qu'il est en train de prêcher, voilà que le Saint-Esprit descend sur ces gens et ils sont tous baptisés du Saint-Esprit. Ils disent, bah, c'est extraordinaire ce qu'ils ont vécu, mais nous aussi on doit le vivre, quoi. C'est le moment de se poser deux questions. Toujours sur le thème de la prière. La première question, c'est mais pourquoi est-ce que l'ange n'a pas lui-même dit à Corneille ce qu'il avait besoin d'entendre ? Ben oui. L'ange va voir Corneille pour lui dire tu envoies du monde, tu vas chercher un tel parce que c'est lui qui va te dire ce que tu as besoin d'entendre. Pourquoi l'ange ne lui a pas lui-même dit les choses ? On aurait un peu gagné de temps, quoi. Puis, c'est un ange qui aurait parlé, ça aurait... Pourquoi, deuxième question, pourquoi la vision de Pierre est si énigmatique, si bizarre, à tel point que lui-même l'intéressait, une fois que la vision est passée, il se gratte la tête, il se dit, mais et ça veut dire quoi, cette histoire? Est-ce que Dieu n'aurait pas pu, je sais pas, être plus clair, plus net? Dieu fait voir à Pierre quelque chose qui rend perplexe au point que la personne qui a vu ça elle-même est en train de se dire mais je comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que là dans cette vision est-ce que Dieu n'a pas été plus clair? Pour ces deux questions, on a la même réponse. C'est qu'il faut comprendre que dans le système de fonctionnement de Dieu, quand les choses fonctionnent avec Dieu, il n'y a rien qui ne soit indépendant. Regardez la nature. Il n'y a rien qui soit indépendant. Tout est lié à quelque chose. Même les mouchons, ils ont leur raison d'être. Les glaciers raison d'être pour l'ensemble du climat de la Terre. Tout a une raison d'être. Tout a une raison d'être. Une moindre température et on voit que ça chamboule tout. Les vers de terre qui sont dans la Terre sont hyper nécessaires. La décomposition d'une feuille qui tombe à terre est nécessaire pour la Terre. Mais en fait, quand Dieu a fait quelque chose, elle n'est, en elle-même, elle n'est pas indépendante. Elle est forcément liée à quelque chose. Et dans le système que Dieu fait pour les choses physiques, même pour les choses spirituelles, toute chose est forcément liée à quelque chose. Dieu ne fait rien qui soit par lui-même indépendant et suffisant. Ça n'existe pas. Et dans cette situation, il y a besoin de la prière, amen, mais il y a aussi besoin de la parole de Dieu. Il y a besoin de l'action du Saint-Esprit, il y a besoin de l'Église, il y a besoin de l'acceptation. Et tout ça fait la volonté de Dieu. Si on reprend nos questions, pourquoi est-ce que l'ange n'a pas expliqué directement à Corneille ce qu'il avait besoin d'entendre? Mais parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Dieu veut que ce soit les hommes qui annoncent la bonne nouvelle. C'est tout. Donc bien sûr, l'ange aurait pu, mais ce n'est pas l'ordre naturel des choses, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Dieu veut que ce soit les hommes qui annoncent cette bonne nouvelle aux hommes. Et c'est ainsi que l'ange demande à cet homme d'envoyer quelqu'un pour que ce message soit annoncé. Parce que c'est la vocation de l'Église d'annoncer le bon message de l'Évangile. Parce que c'est la volonté de Dieu de faire grandir son propre corps qui est l'Église. Pourquoi la vision de Pierre est-elle si bizarre, si énigmatique? Parce que justement, Dieu veut que nous réfléchissions, que nous acceptions la volonté de Dieu. Bien sûr que Dieu aurait pu forcer Pierre à y aller. Mais comme chacun d'entre nous, on doit accepter la volonté de Dieu. On doit adhérer Ça doit être notre engagement tout entier à rentrer dans la volonté de Dieu. Vous connaissez cette référence 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9. Ça c'est à connaître par cœur. 1 Corinthiens 3:9 dit: nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Et c'est pourquoi quand Dieu fait des miracles, des prodiges, des visions, des choses comme ça, ce n'est jamais, elles ne sont jamais suffisantes en elles, mais elles nous intègrent toujours à sa volonté, toujours à son plan. Et la prière, parce que revenons à cela, la prière développe cette collaboration avec Dieu. C'est parce que ces hommes étaient dans la prière que Dieu leur a montré des choses particulières, mais afin de les rendre collaborateurs de la volonté de Dieu. C'est parce que ces hommes étaient là, des hommes de prière, de piété, que Dieu leur a pu effectivement faire vivre quelque chose pour rentrer dans la volonté de Dieu. D'où le titre que j'ai voulu donner à ce passage, « Se laisser surprendre par la volonté de Dieu ». Il faut que nous apprenions et que nous nous laissions surprendre dans nos temps de prière par la volonté de Dieu. Il faut que quand on prie, on soit prêt à se laisser étonner, à se laisser remettre en cause, à se laisser remettre en question. Que quand on prie, on ne soit pas seulement là dans une sorte de discours ou de rengaine de prière, mais que notre cœur soit aussi capable, dans nos sujets de prière, de dire « Mais Seigneur, remets-moi en cause, explique-moi, montre-moi, révèle-moi, fais-moi comprendre de l'intérieur. » Le temps de la prière, c'est un temps de préparation. Le temps de la prière, c'est un moment où Dieu peut façonner nos cœurs. Le temps de la prière, c'est un moment où Dieu laboure nos cœurs. Le temps de la prière, c'est un moment où notre âme est en travail. C'est pour ça que bien souvent, derrière l'impatience, il y a rarement la volonté de Dieu. Parce que dans la prière, Dieu prépare. Dans la prière, Dieu façonne. Dans la prière, Dieu est le chef du temps, des circonstances. Et avant que Dieu nous appelle à faire quelque chose, souvent, il nous prépare dans la prière. Alors, on ne le voit pas forcément de suite. Mais Dieu prépare, Dieu façonne, Dieu sculpte. Dieu est comme un bon cultivateur, il retourne la terre de notre cœur, de notre âme. Alors il y a des fois, il ne se passera rien. La semaine dernière, on était dans l'histoire avec Élisée. Pour ceux qui prennent des notes, c'était 2 Rois chapitre 4. Et on voit cet homme Élisée qui est sur la montagne. Il y a cette femme qui vient, elle a l'amertume dans l'âme. Et Élisée dit: cette femme vient avec l'amertume dans l'âme, mais le Seigneur ne me l'a pas révélée. C'est étonnant. Le prophète, l'homme inspiré, l'homme qui voit les choses, il est aussi celui à qui Dieu ne lui révèle pas les choses. Alors c'est vrai, il y a des fois on va prier, et puis on va avoir l'impression que Dieu ne nous dit rien, mais ça arrive. Mais ce n'est pas parce que Dieu ne nous dit rien qu'il ne nous prépare pas en même temps. Ce n'est pas parce qu'on ne ressent pas que Dieu ne prépare pas notre cœur. Et quand bien même est-ce qu'il ne préparerait pas notre cœur ? Il n'y a pas que notre cœur qui a besoin d'être préparé, mais les temps et les circonstances également. Donc quand on prie, sachons réaliser que Dieu est en train de préparer quelque chose. Notre cœur, comme il a préparé le cœur de Corneille, comme il était en train de préparer le cœur de Pierre. Ce sont des hommes qui étaient habitués à la prière, et parce qu'ils étaient habitués à la prière, à un moment, Dieu les a trouvés disposés, disponibles pour aller plus loin. Pour recevoir la parole pour l'un, pour aller au-devant des païens pour l'autre. Le temps de prière est un Dieu de préparation spirituelle. Des fois, mais j'espère que ça arrivera de plus en plus souvent, que quand vous prierez, Dieu préparera vos cœurs pour un don spirituel, pour une disposition particulière, à une rencontre, que vous n'attendiez même pas, mais que Dieu sait. Il est en train de préparer votre cœur. Il ne va pas vous dire ce qui va se passer, mais il va préparer votre cœur pour cette rencontre. Et lorsqu'il y a cette rencontre, on aura l'état d'esprit. Peut-être que ça vous est déjà arrivé de prier le matin et vous ne savez pas pourquoi, mais il y a comme quelque chose qui se met dans votre cœur, vous n'arrivez pas à l'expliquer, mais c'est vous, et dans la journée, vous réalisez que votre cœur était préparé à vivre une situation ou à recevoir une nouvelle ou à entendre quelque chose qui, de manière ordinaire, aurait pu vous déstabiliser. Mais là, votre cœur était préparé, votre âme était préparée. Il est bon, chez soi, de dire « Seigneur, parle-moi, afin que prépare-moi pour que j'aille pas seulement à l'église prier, mais que j'aille aussi à l'église pour recevoir quelque chose de toi et le donner à l'assemblée. » Il est important de préparer, de demander au Seigneur, « Seigneur, je veux me laisser surprendre afin de faire ta volonté. » Nous laisser surprendre aussi pour nous laisser visiter par le Saint-Esprit. Alors que Pierre prêche, le Saint-Esprit descend sur tous les autres et ils sont remplis du Saint-Esprit, à tel point que Pierre dit « Oh !» Ils ont été baptisés aussi bien que nous. Alors là, quand il raconte ça, ce n'est pas un souvenir d'hier ou d'avant-hier. Parce qu'entre la Pentecôte que l'on connaît, hein, en acte 4, si je ne me trompe pas, acte 2, mille excuses. Entre la Pentecôte d'acte 2, la première Pentecôte, la visitation du Saint-Esprit, et là, acte 10, il y a 8 ans d'écart quand même. Nous, quand on lit les évangiles, on a l'impression que toutes les 2 semaines, il y avait l'effusion du Saint-Esprit sur tout le monde. Bah non, désolé. 8 ans après, Pierre, quand il voit la scène, il dit « Oh, mais c'est comme nous à l'époque. Comme nous. » Ça n'arrivait pas toutes les semaines, c'est sûr. Il y a eu des visitations particulières parce que là, c'était aussi quelque chose de particulier. C'était des non-juifs qui recevaient la parole de Dieu et qui étaient visités par le Saint-Esprit comme eux, les bons juifs de l'époque, l'avaient été. Alors eux, c'était normal, on était juifs, donc on continue à recevoir. Mais là, c'était une ère nouvelle, une nouvelle étape dans l'œuvre de Dieu. Malgré tout, je crois qu'il y a le même point commun. C'est qu'en acte 2, comme en acte 10, c'était des hommes qui étaient des hommes de prière, oui. Des hommes qui recherchaient les choses spirituelles. Amen. Mais ils n'avaient pas de logique préconçue. Les deux ont été visités par le Saint-Esprit alors même qu'ils ne s'y attendaient pas. Ils n'avaient pas des stéréotypes. Ils étaient dans l'incapacité de limiter l'action de Dieu dans un petit carcan parce qu'ils n'avaient pas d'antécédent, ils n'avaient pas de référent, ils avaient juste le cœur largement ouvert, d'où cette expression « Nous aussi, s'il vous plaît, laissons-nous surprendre par la visitation du Saint-Esprit. Ne croyons pas que ce sera comme ci ou comme ça, que ce sera forcément comme ça et que c'est obligé parce que... » On n'en sait rien, bien-aimé. Quand le Saint-Esprit nous visite, oui, il y a des points communs. Cette effusion, cette visitation, cette langue qui se libère pour les prophéties, pour le parler en langue, ça oui. Mais le reste, langue de feu ou pas langue de feu, vent ou pas vent, debout ou assis, honnêtement, tout ça c'est secondaire. Mais ce qui est important, c'est ce qui effectivement qu'il y ait cette aspiration à se laisser surprendre et surtout à se laisser saisir par le Saint-Esprit. Alors oui, que Dieu nous aide à travers de cet exemple, de cette scène de prière, à nous laisser surprendre, à nous laisser entraîner, à nous laisser associer à la volonté de Dieu. Et que le Saint-Esprit puisse nous étonner et qu'il puisse trouver au milieu de nous des ouvriers afin de faire son œuvre. Amen.